Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites, je répète. Le loup est dans la bergerie, je répète, le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer, je répète, le groove perdu va
Salut à vous à la recherche du groove perdu, session numéro 418, une émission musicale, la géométrie variable, produite depuis 2011 à RDY. Et cette semaine, fini les chansons canines, il y en a eu 10. On va passer à autre chose pour partir aux États-Unis. On va s'écouter des vieux sons poussiéreux enregistrés sur le terrain avec des casseurs de cailloux, des coupeurs de bois, des marteleurs de chemin de fer et autres travailleurs de l'ancien temps qui s'employaient comme des bagnards qu'ils étaient la plupart du temps. Ce répertoire sera entrecoupé des explications de texte d'une chanteuse, Daisy Bolter. Elle connaît bien son sujet, comme vous allez l'entendre, bien mieux que moi en tout cas, et c'est pour ça que je vais lui laisser la parole après le premier extrait du jour. Le morceau s'appelle I'll Be So Glad, un son glané en 1959 sur le terrain par Alan Lomax à la prison d'état du Mississippi. Le chanteur s'appelle Ed Lewis, et on se retrouve à la pause musique.
The matter, baby. Yeah, I can't see.
Well, I can't see.
Oh, what got the matter, baby? Yeah, I can't see.
Well, I can't see.
No, the sergeant and the driver's both. He's down on me.
Put down on me.
No, the sergeant and the driver's both. He's down on me.
Put down on me.
Just chop your corner land. Like I chop mine.
Well, I chop mine.
Just chop your corner like. Like I chop mine.
Like I chop mine.
Well, you won't be worried when. When the sun go down.
When the sun go down.
You'll never be worried when. When the sun go down.
When the sun go down.
Quand on parle de, des work songs afro-américains, on doit d'abord faire référence à l'esclavage. Petit rappel historique quant à la période concernée. Alors, la date de fin est connue, c'est 1865, fin de la guerre de sécession. La date de démarrage de l'esclavage aux États-Unis est plus sujette à caution. Suivant les chercheurs, on parle de 1619, on parle de 1526. On a plusieurs points de démarrage possibles. Mais en tous les cas, on sait qu'au niveau du nombre de personnes concernées, du nombre de personnes emmenées de force d'Afrique aux États-Unis, on peut parler de plusieurs millions de personnes sur cette période-là. Et ce compte ne comprend pas toutes les personnes qu'on va dénommer sous l'appellation afro-américaine, c'est-à-dire les descendants, les descendants et descendantes de ces personnes africaines emmenées de force, puisque à mi-parcours du 19e siècle, on pouvait considérer que l'écrasante majorité des esclaves aux États-Unis, des esclaves afro-américains, étaient de troisième, quatrième, voire cinquième génération née aux États-Unis. Il faut se souvenir que l'importation d'esclaves depuis l'Afrique est officiellement interdite aux États-Unis dès 1808, ce qui n'empêche pas bien sûr que de fait cela continue. Mais à partir de 1808, de nombreux chercheurs s'accordent à dire que le trafic d'esclaves, la vente d'esclaves est particulièrement importante au sein même des États-Unis. Donc, en tous les cas, on considère que l'importation de personnes africaines sur le sol des États-Unis est bien moins importante après 1808. Quant à la provenance géographique des personnes africaines emmenées de force pour être esclaves aux États-Unis, on constate qu'une grande majorité de personnes venaient de plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest. On constate qu'il pouvait y avoir un lien avéré et assez évident entre le pays de provenance et l'endroit où ces personnes allaient travailler, parce que l'esclavage est très lié à l'essor économique des États du Sud des États-Unis. Ainsi, en Géorgie et en Caroline du Sud, par exemple, où la culture du riz a eu une importance capitale, les propriétaires terriens étaient prêts à payer plus cher pour des esclaves qui venaient de pays d'Afrique de l'Ouest où la culture du riz était développée. Donc on parle de certains endroits dans le Sénégal, on parle du Sierra Leone, on parle du nord du Libéria par exemple. On constate que la provenance géographique des esclaves était aussi liée aux liens commerciaux entre des propriétaires terriens et des vendeurs d'esclaves, par exemple des vendeurs anglais. Le chercheur Joseph Opala, par exemple, a souligné que sur la côte de Géorgie, par exemple, un grand nombre d'esclaves sont venus d'une même région du Sierra Leone. En tout cas, ils avaient été regroupés dans un même fort, Bent's Island, un même fort qui était un point de départ de vaisseaux de traite d'esclaves qui se rendaient donc dans le port de Savannah en Géorgie. On trouve encore la trace aujourd'hui, que ce soit au Sierra Leone ou sur l'île de Gorée au Sénégal, de slave castles, c'est-à-dire des forts, des bâtiments où étaient regroupés, séquestrés des personnes qui avaient été capturées ou vendues pour être envoyé sur le sol des États-Unis, hommes, femmes ou enfants.
Sun go down, will not burn.
Après 1865, donc la date d'interdiction de l'esclavage, se met en place une situation assez trouble qui, quasiment dès l'abolition de l'esclavage, commence à fragiliser la position des Afro-Américains dans les États du Sud des États-Unis. Le 13e amendement, qui précise que l'esclavage et la servitude involontaire ne peuvent plus avoir cours, spécifie quand même que cette servitude involontaire et cet esclavage peut s'appliquer cependant à des détenus. Et après 1865, dans les États du Sud complètement détruits par la guerre de sécession, vraiment exsangue économiquement, on constate que cette fin du 13e amendement peut être mise à profit pour des raisons économiques, là encore. L'État, les États du Sud des États-Unis manquaient d'infrastructures, beaucoup avaient été détruites, et manquaient notamment d'établissements pénitentiaires. Ça coûtait cher de nourrir des prisonniers, d'assurer leur survie quotidienne, leur vie quotidienne. Et s'est mis en place une situation où les États du Sud louaient les prisonniers, et tout particulièrement les prisonniers afro-américains, à des propriétaires terriens, à des compagnies de chemin de fer, à des entreprises qui avaient besoin de main-d'œuvre, et si possible, une main-d'œuvre bon marché. Les détenus étaient donc hébergés et employés dans des conditions déplorables, le plus souvent, plus que déplorables, par des entreprises ou des propriétaires terriens. Les États n'ayant qu'un droit de regard très relatif sur les conditions de vie des détenus. Cette pratique s'appelait le « convict leasing », c'est-à-dire la location de détenus, pourrait-on dire, et assurer un petit revenu aux États, puisque les propriétaires, les entreprises leur payaient une certaine somme, et générait des revenus extrêmement importants pour l'économie du sud des États-Unis. L'énorme majorité de ce que nous possédons a été récoltée entre les années 30 et les années 60, on va dire, et dans le contexte de pénitenciers, d'établissements pénitentiaires ou d'établissements d'entreprises, de fermes, où les détenus étaient loués par l'État. Donc dès 1865, par des lois ou des aménagements de lois ou des états de fait, les Afro-Américains dans les États du Sud des États-Unis étaient particulièrement fragiles face à la loi. Des crimes tels que la détention d'armes, mais aussi le vagabondage, le fait de ne pas avoir avec soi un certificat d'emploi, pouvaient être passibles de peines qui peuvent paraître disproportionnées. De même, des amendes qui pouvaient être infligées à des Afro-Américains reconnus coupables de certains crimes étaient tellement lourdes qu'elles étaient quasiment impossibles à payer. Donc, l'autre alternative était des peines d'emprisonnement. Cette situation-là s'est développée et on peut estimer, certains chercheurs estiment, que toutes ces pratiques ont participé à la lente mise en place d'une ségrégation.
Make a solid road. Well, It takes a rocket for the ground off the ground to make a solid road. It takes a good looking one for me to make a good looking one. Well, it makes a good looking one for the baby. It makes a good looking one for all the sugar. It takes a good looking one for the mama to make a good looking one. Well, well, Lord, Lord, you roll. Well, Lord, Lord, it's sugar. Well, Lord, Lord, it's roll. Well, Lord, yeah. Well, bought a peg of wood, pack it home. Her on the school, I stole off the sugar. Well, a peg of wood, a peg and on. Her on the school, I stole. Well, well, if ever would have been known, we're on the school last door, all the sugar. Well, it begged so hard for baby, until the beggar got so. Well, until the beggar got so, oh, baby, until the beggar got so, all the sugar. Well, it begged so hard for mama, until the beggar got so. Well, well, Lord, 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 well, Lord,
en ce qui concerne les ressources qui sont à notre disposition pour étudier, s'intéresser aux work songs afro-américains, on trouve des traces écrites dès le 19e siècle. Alors, il peut s'agir de récits évoquant l'existence des champs de travail. Et on a quelques tentatives de transcription, notamment dans un ouvrage qui s'appelle « Slave Songs of the United States »,« Chants d'esclaves des États-Unis », paru en 1867, et dans lequel on trouve une grande majorité de chants qu'on peut lier plutôt aux spirituals, des chants à contenu religieux donc, mais certains chants qui sont identifiés de façon assez brève comme des chants liés au travail. Dès le début du XXe siècle, on a quelques chercheurs qui s'intéressent aussi au répertoire des work songs et qui notent transcrivent des paroles. Et dans les années 30, alors là on est obligé de parler de John Lomax, puis de Alan Lomax bien sûr, et Ruby Lomax, qui ont été des acteurs absolument essentiels de la préservation de la mémoire des work songs. Donc les Lomax commencent à faire des enregistrements dans des établissements pénitentiaires ou des entreprises et des propriétés où sont employés des détenus, commencent à faire ces collectages dès les années 30. On a également d'autres chercheurs comme Pete et Toshi Seeger, par exemple, qui ont réalisé notamment un documentaire sur un établissement pénitentiaire dans le Texas, et également le chercheur Bruce Jackson, qui a beaucoup collecté et fait de recherche autour des work songs de détenus afro-américains. My baby's just crying. My baby's just crying. Brother, come home, Lord, Lord. Brother, come home. Brother, come home, Lord, Lord. Brother, come home. I'm going home, oh yes. I'm going home, oh yes, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home, I'm going home, Lord, Lord, I'm going home. My old mother's crying, my old mother's crying, come on home, Lord, Lord, come on home, come on home. Lord, Lord, come on home. I'm going home, oh yes. I'm going home, oh yes. I'm going home, Lord, Lord. I'm going home.
I'm going home. Lord, Lord, I'm going home.
My old father's crying. My old father's crying. Come on home, Lord, Lord. Come on home. Come on home, Lord, Lord. Come on home.
I'm going home.
Oh, yes.
I'm going home.
Oh, yes.
I'm going home, Lord, Lord.
I'm going home. I'm going home. Lord, Lord. I'm going home.
I'm going to run.
Then I'd kiss me.
I'm going to run.
Then I'd kiss me.
I'm going home, Lord, Lord.
I'm going home.
I'm going home,
Lord, Lord. I'm going home.
If they ask what I run,
if they ask what I run,
running like hell,
Lord, Lord.
Running like hell,
running like hell,
Lord, Lord.
Running like hell.
I'm going home,
oh yes.
I'm going home,
oh yes.
I'm going home,
Lord, Lord.
I'm going home.
I'm going home,
Lord, Lord.
I'm going home.
I'm going home,
oh yes.
I'm going home,
oh yes.
I'm going home,
Lord, Lord.
I'm going home.
I'm going home,
Lord, Lord, I'm going home.
À la recherche du groupe perdu, session numéro 418, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Et cette semaine, on s'intéresse à l'ethnomusicologie et tout particulièrement aux work songs afro-américaines, les chants de travail et autres field hauler. On s'intéresse à leurs origines, au contexte, à leur interprétation. Celle qui nous guide durant cette heure, c'est Daisy Bolter, une chanteuse spécialisée dans ce répertoire. Le tout est illustré avec des extraits de work songs, enregistrés sur le terrain. C'est parti, à tout à l'heure.
Si l'on se base sur les enregistrements qui sont à notre disposition, on constate que les work songs afro-américains, dans leur écrasante majorité, à ma connaissance, sont des chants de groupe dans lesquels la dimension rythmique est très forte. Des chants qui sont d'ailleurs fréquemment rythmés par des objets, des outils de travail, par des mouvements également. Dans ces chants, il y a généralement un leader ou un caller, donc quelqu'un qui appelle, qui dirige le chant et son rythme. Et on peut avoir soit un type de chant où le leader chante une phrase et le groupe restitue cette même phrase, ou bien des chants dans lesquels le leader chante une phrase et le groupe répond autre chose. D'après de nombreux chercheurs et les témoignages de nombreuses personnes détenues qui ont livré ces work songs, le leader avait une place prépondérante dans l'invention et la réalisation de ces work songs, puisque le rythme qu'il imprimait à la chanson, l'énergie et l'engagement vocal qu'il fournissait était déterminant pour les réponses et l'engagement du groupe, que ce soit dans le chant, mais aussi dans le travail. Les thématiques des chants sont diverses. Le chercheur Bruce Jackson, par exemple, estime que ce sont des chants de non-amour, de non-liberté, qui parlent de sujets souvent très sombres, alors que ces chants étaient souvent destinés à être chantés en plein soleil. sous le soleil en travaillant. Donc dans les work songs, le leader, le caller, a une marge de manœuvre en ce qui concerne la mélodie définie, sur laquelle il peut improviser, apporter des modifications rythmiques ou au niveau des notes. Le leader a aussi une liberté au niveau des paroles, puisque les paroles sont improvisées, ou en tout cas ont une dimension improvisée, au fur et à mesure des couplets qui sont inventés par le choral. Il existe aussi d'autres types de chants qu'on peut apparenter aux chants de travail, et qui le sont par de nombreux chercheurs. Et je veux parler par exemple des field hollers, on peut traduire ça par cris de chant, chant agricole. Les quitting time calls, des appels pour la fin du travail. Des meal time calls, des appels pour signifier que c'est l'heure du repas. Et on parle aussi de arhoolies. Alors ça, c'est pas un terme qu'on peut vraiment traduire, et qui décrit une mélodie improvisée qui peut être assez traînante, qui peut utiliser des mélismes. Et tous ces chants, tous ces appels, sont plutôt des chants individuels, émis par une personne à la fois, mais qui peuvent être interprétés ou réappropriés en écho par d'autres personnes à l'autre bout du champ ou dans un champ voisin.
Well, I wonder will I ever get back home, hey, hey. Ooh, oh, Lord. Well, it must have been the devil that fooled me here, hey, hey, hey. One more down and I. Hey, oh Lord, Lord, if I ever get back home, I never do wrong. Well, if I can just make it home, I won't do wrong no more. Lord, I won't do wrong no more. Lord, I left me willing to be back in the courthouse crying. Daddy, please don't go. Lord, I'll be back home. Well, Lord, I'll be home. One day for long, oh, 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 just wait for me. Lord, I've been here rolling, but it stayed so long. Lord, I.
Well, oh, Lord, I woke up this morning, man, I was feeling bad. Whoa, babe, I was feeling bad.
De la même façon, quand on consulte les archives sonores d'Alan Lomax, de John et Alan Lomax, on constate que certains work songs sont également identifiés sous l'étiquette de proto-blues, par exemple. Alors on peut se demander si justement le fait d'avoir ce qui peut sembler comme une porosité de certains chants, qui pourraient être rattachés à plusieurs types de répertoires, n'est pas à rattacher à ce dont parlent plusieurs chercheurs, c'est-à-dire le fait que dans les musiques de tradition afro-américaine, les chants peuvent avoir plusieurs existences, en fait, et notamment une existence laïque et une existence dans un contexte religieux. On peut trouver un même chant, par exemple « Michael row the boat ashore », qui va être par certains chercheurs identifié comme un spiritual, un chant de contenu religieux, et par d'autres comme à la fois un chant possiblement religieux et un work song. Alors les contextes de chant sont multiples, ils sont souvent liés au monde agricole et rural. Donc on a des chants qui concernent l'abattage des arbres, on a des chants qui concernent le bêchage, le binage, le sarclage, des chants qui concernent le fait de planter des céréales notamment. On trouve des chants liés à des travaux ferroviaires, l'alignement des rails ou le réalignement des rails. On trouve également des chants liés à l'utilisation des marteaux. Il y a même une dénomination, Hammer Songs, les chants de marteau, qui est un sous-genre des work songs. On trouve des chants liés aussi aux bateaux. Et aux bateaux, alors ça peut être les bateaux à rames. On trouve également des chants qui sont liés au fait de ramer, donc qui étaient chantés sur des embarcations où travaillaient plusieurs rameurs. On peut s'attarder un moment sur la place des femmes au sein des work songs. dans les enregistrements qu'on possède, auxquels on a accès le plus simplement, disons, à ma connaissance, il n'y a pas de work songs chantés par des groupes de femmes afro-américaines. Cependant, on sait qu'il y a eu un grand nombre de femmes afro-américaines détenues dans le contexte du convict leasing et qu'elles effectuaient les mêmes tâches, ou à peu de choses près, que les hommes. Mais il est intéressant de noter que même pour un chercheur comme Bruce Jackson, l'intérêt de collecter les témoignages de femmes détenues dans ce contexte paraissait peu intéressant, peu important. Pendant la période de l'esclavage, de nombreux chercheurs estiment maintenant qu'entre 60 et 80% des femmes travaillaient dans les champs aux mêmes travaux que les hommes. Donc, en toute logique, on peut estimer que les femmes afro-américaines ont chanté des work songs pendant la période de l'esclavage, que ce soit en groupe de femmes ou avec les hommes. On peut se baser sur des écrits, et notamment ceux de Frederick Douglass. Alors, Frederick Douglass, c'est une grande figure de l'histoire des Afro-Américains. C'est un esclave qui réussit à s'enfuir et qui devient un orateur, un éditeur et un abolitionniste extrêmement important. Et dans ses mémoires, il racontait que les propriétaires terriens, blancs, considéraient qu'un esclave qui travaillait silencieusement était suspect et même potentiellement dangereux. Et que donc les esclaves étaient fortement encouragés à chanter pendant qu'ils travaillaient, d'une part pour assurer une certaine cadence, un certain rendement, et d'autre part parce que tout simplement un esclave qui chante, c'est un esclave qui n'échange pas sur des possibilités de s'enfuir ou pour comploter contre son maître. Les work songs assuraient la cohésion d'un groupe, et par exemple d'un groupe de détenus, dans le contexte du travail. Une personne qui travaillait plus lentement que les autres était plus fragile, et donc assurait une cadence, assurait une cohésion musicale, rythmique, et une cohésion de respiration au groupe, c'était protéger toutes les personnes qui constituaient ce groupe.
She realized.
Les chercheurs qui ont collecté des work songs écrivent dès les années 60 qu'il s'agit d'un répertoire qui est voué à disparaître en tant que tel. Tout d'abord parce que les tâches qui étaient effectuées par les prisonniers sont mécanisées de plus en plus. Certains chercheurs avancent l'idée aussi que c'est un répertoire qui n'a pas vocation, ou en tout cas qui ne serait pas transmis de gaieté de cœur dans un contexte personnel, familial, puisqu'il s'agit de chants qui sont interprétés, vécus dans un contexte extrêmement douloureux et un contexte fermé, celui de la détention. On pourrait dire que la transmission des work songs est passée, et cela assez tôt d'ailleurs dans les étapes de collectage. Donc cette transmission, elle est passée par la scène, par la réinterprétation, par une certaine transformation, une certaine réappropriation, par des artistes ou par des anciens détenus de ce répertoire. Ça commence avec Led Belly, qui était un détenu à la voix formidable, enregistré par les Lomax, que les Lomax ont aidé et soutenu et même poussé à se produire sur scène avec ce répertoire de work songs un peu transformé. Alors bien sûr, la recherche continue sur les work songs afro-américains. On ne sait pas si on va trouver d'autres enregistrements inconnus à ce jour. On ne sait pas si on va trouver des traces écrites de ces work songs ou des récits évoquant des work songs dont on n'a pas eu connaissance jusqu'à maintenant. Mais on peut penser que, quand bien même on ne trouverait plus d'enregistrements de work songs ou de documents anciens, l'interprétation du matériel que nous possédons est loin d'être finie. Et ses ramifications dans le champ économique, dans le champ des études sociales, politiques, dans le champ des études de genre, dans toutes sortes de domaines, toutes ces ramifications sont loin d'avoir été complètement explorées.
Look, look yonder, look, look yonder. Look, look yonder, where the sun done gone, the camera can't hold them, camera can't hold them, camera can't hold them, no way I do, yes, ain't it got a gold mine, ain't it got a gold mine, ain't it got a gold mine, way above a knee. Look, look yonder, look, look yonder, look, look yonder, where the sun done gone. Axe is walking all day long. Chips is talking, babe, all day long. Look yonder, where the sun done gone. Oh, Black Betty, Bamba Lamb, oh, Black Betty, Bamba Lamb, Black Betty had a baby, Bamba Lamb, Black Betty had a baby, Bamba Lamb, them things gone crazy, Bamba Lamb, them things gone crazy, Bamba Lamb, oh, Black Betty, Bamba Lamb, oh, Black Betty, Bamba Lamb, oh, baby, Black Betty, Bamba Lamb, oh, Betty, Black Betty, Bamba Lamb, Black Betty had a baby, Bamba Lamb, Black Betty had a baby, Bamba Lamb, them things gone crazy, Bamba Lamb, them things gone crazy, Bamba Lamb said it wasn't none of mine, Bamba Lamb.
Voilà pour cette émission 100% work songs, des chants de travail décortiqués par Daisy Bolter. Vous avez pu entendre un certain nombre de chansons issues de ce vieux répertoire qui a été enregistré pour la plupart dans les années 50 dans les prisons du sud des États-Unis. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Et pour ce qui est de l'émission du jour, vous pouvez la retrouver sur le site de rdwa.fr à la rubrique émission musicale. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour toute autre chose, portez-vous bien, ciao.
Thought I wonder if it's love.